Radio Kapi. Oh, Kapi. Belinda Bosuma à la présentation.
À la une, cette nouvelle incursion ce matin des présumés éléments de la Codeco dans 6 villages de Pandourou en Ituri. Bilan, 14 morts, des maisons incendiées et des biens emportés. Le faible effectif des soldats des FARDC n'a pas permis de repousser cette attaque, signale le président de la société civile de Mahagui. Tête à tête, Félix-Antoine Tshisekedi Djoa ou Laurent Soyer samedi à Luanda. Les présidents congolais et angolais ont échangé sur le processus de paix dit de Luanda ainsi que sur l'arrivée prochaine d'un contingent de 500 militaires angolais à l'est de la RDC. Et puis, l'invité de ce midi, Flamand Bali Wangoy, coordonnateur national adjoint du Centre congolais de lutte anti-mine, en mission officielle à Beni, il nous fait l'état des lieux de la lutte anti-mine dans cette région. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part de l'Ituri. 14 morts, dont des enfants et des femmes, tel est le bilan d'une nouvelle incursion des présumés éléments du groupe armé Codeco dans 6 villages de la chefferie de Pandourou dans le territoire de Mahagui. Cela s'est passé tôt ce matin, affirme le président de la société civile de Mahagui, qui indique que le faible effectif des soldats des FARDC n'a pas permis de repousser cette attaque. Avant de se retirer, les assaillants ont incendié une dizaine de maisons et emporté plusieurs biens de la population, ce qui a provoqué un déplacement des habitants de cette contrée vers des entités plus sécurisées. Innocent Ouabekoudou explique les circonstances dans lesquelles ces personnes ont perdu la vie. Il est joint au téléphone par Jean-Claude Lokidile.
Les éléments de la milice Codeco ont fait incursion dans les villages Aou, Sana, Ali, Djopazaga, Mirber, Terutoro, etc. Ces miliciens sont revenus du village Lobo, Kamacho et ont tué à machette beaucoup plus au niveau du village appelé Djopazaga. Le bilan provisoire fait état des 14 corps retrouvés, dont 4 femmes, 3 enfants, 7 hommes tués à machette, plusieurs maisons parties en fumée, des biens de valeur de la population pillés, déplacement massif de la population vers le site de Louga, Si, le centre d'Ingoté, Gonyeri, le village Avogira, Terososa, Aïssi, Pabong, Umbisi et d'autres milliers jugés sécurisés. Paralysie totale des activités au niveau des centres et villages environnants. Et pour nous, ça constitue vraiment une désolation.
Du côté du Nord Kivu, au moins 10 civils ont été tués à l'arme blanche dans une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ADF Angouli, un village du groupement Boukenye dans le territoire de Lubero. C'est à la limite avec le territoire de Beni. La société civile qui parle d'un bilan provisoire rapporte que l'attaque a eu lieu la nuit d'hier à ce dimanche. Edgar Mateso, premier vice-président de la société civile du Nord Kivu, indique que c'est une première attaque des ADF visant le territoire de Lubero. Tout en déplorant cette énième attaque, cet acteur de la société civile recommande aux autorités militaires et au gouvernement congolais de prendre des mesures qui s'imposent pour empêcher l'extension des rebelles ADF à travers d'autres territoires du Nord Kivu. Edgar Mateso, joint au téléphone par André Kitenge.
Le bilan provisoire fait état de 10 personnes décédées avec un blessé très grave et plusieurs personnes portées disparues. L'ennemi a encerclé le village et a commencé à tuer la paisible population et l'ennemi donc a opéré sans être inquiété par qui que ce soit. Au regard de l'évolution de ces massacres, il faut noter que c'est pour la première fois que le massacre des civils par l'ADF vient d'entamer le territoire de Lubero. Voilà pourquoi nous voudrions attirer l'attention des autorités militaires et du gouvernement congolais à pouvoir apporter un regard particulier sur le territoire de Beni et sur le territoire de Lubero, parce qu'actuellement l'ADF circule sans être inquiété. Il peut opérer à l'ouest, à l'est, au nord comme au sud du territoire de Beni, et voilà qu'il commence maintenant à entrer du côté de Lubero et que donc il faudra renforcer les positions militaires, la sécurité dans la zone afin que l'ennemi puisse être étouffé.
Notez que depuis quelques jours, les ADF ont multiplié des attaques contre plusieurs villages du territoire de Beni. Au moins 80 civils ont été tués à Mukondi, Kirindera, Mabuku et Makungwe. Tous nos efforts pour joindre le porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord sont restés sans succès. Entre-temps, 24 heures après l'approbation à l'unanimité du Parlement angolais en faveur de l'envoi d'un contingent militaire à l'est de la République démocratique du Congo, le président Félix-Antoine Tshisekedi a rencontré hier à Luanda son homologue João Lourenço. Cette rencontre en tête-à-tête a permis aux deux chefs d'État d'évaluer le processus de paix dit de Luanda que mène le président angolais en sa qualité de médiateur désigné par l'Union africaine. Les deux chefs d'État n'ont pas communiqué sur les détails de leur entretien. Toutefois, dans leur entourage, on affirme que les détails opérationnels du contingent angolais de 500 combattants ainsi que la suite du processus ont été largement évoqués. On écoute à ce sujet le vice-premier ministre, ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, dans cet extrait proposé par Alain Rong.
Vous savez que non seulement le processus de désengagement du cessez-le-feu qui a été décidé par l'Union africaine est accepté aussi par la communauté internationale et en souffrance. En fait, l'Angola a un mandat renforcé de faire en sorte que les plans de paix Luanda-Nairobi auxquels j'ai fait allusion soient effectivement exécutés par le M23. Et donc, le Parlement angolais a avalisé cette initiative forte. Et certainement que le chef d'État devait en parler. Et je suis très certain, en tant que médiateur, le président Lourenço a le même type de contact avec d'autres chefs d'État concernés.
Par ailleurs, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde appelle à examiner la possibilité de la tenue d'un sommet extraordinaire consacré essentiellement à la situation sécuritaire en RDC. Selon une dépêche du service des communications de la primature, le Premier ministre a lancé cet appel lors de la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire du Conseil des ministres de la SADC qu'il a présidé hier 18 mars à Kinshasa. Le compte-rendu de Paul Matendo Mayamba.
Dans son propos, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge a parlé d'un drame humanitaire quand il décrit la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. S'effondrant sur France Fanon, le Premier ministre ne pense pas que la SADC, en tant qu'organisation sous-régionale, puisse rêver et croire réellement à un développement intégré dans son espace sans la paix et la sécurité en RDC. Ainsi, en vue d'un rétablissement rapide et durable de la paix et la sécurité, Jean-Michel Samalukonde compte donc sur sa solidarité, comme cela a déjà été le cas par le passé dans la lutte contre la menace que représente l'agression rwandaise. Ainsi, il en appelle à la tenue d'un sommet extraordinaire de la SADC consacré à cette situation. Il a déclaré, je cite, « Notre aspiration à l'intégration et au développement économique de la région ne serait qu'un rêve lointain sans la paix, la stabilité et la sécurité, condition sine qua non à tout investissement et à toute croissance économique. » Fin de citation.
Retournons au Nord Kivu. Médecins sans frontières RDC alerte sur l'augmentation des cas suspects de choléra dans le site des déplacés de Boulengo, situé à l'ouest de la ville de Goma. Depuis le 7 mars dernier, MSF RDC dit avoir enregistré en moyenne 90 nouveaux cas chaque jour dans le centre de traitement. Information publiée sur le compte Twitter de cette organisation. Au moins 4000 personnes utilisent une seule latrine dans ce site, déplore MSF, qui appelle d'autres acteurs humanitaires à intervenir d'urgence pour assurer aux personnes déplacées des conditions de vie dignes. Le responsable de la zone de santé de Goma qui couvre Boulengo confirme la situation et indique que des mesures sont prises pour y faire face. Sifa Maguru nous fait le point.
D'après MSF, au moins 1000 personnes ont été soignées en 10 jours seulement dans cette région qui compte environ 100 000 personnes qui y ont trouvé refuge à la suite des affrontements entre les rebelles du M23 et les FARDC. L'insuffisance des latrines et d'eau potable dans ces camps de déplacés contribue à cette flambée des cas. MSF indique que jusque-là, il a fourni 200 000 litres d'eau potable par jour en plus des 100 latrines déjà construites tandis que 200 autres sont encore en chantier. Cela reste largement insuffisant pour répondre aux normes hygiéniques des bases. Actuellement, une latrine est utilisée par plus de 4000 personnes, déplore cette organisation humanitaire. Pour sa part, le médecin chef des zones de santé de Goma indique que des mesures ont été prises, notamment l'installation des centres de traitement de choléra appuyés par MSF à Boulengo et Bouimba. La responsable de la zone de santé dit être en pourparlers avec les humanitaires pour renforcer l'accès à l'eau potable et aux toilettes dans les camps de déplacés, disent-elles. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Direction le Sud Kivu. Un accident de route a causé la mort de 5 personnes et causé plusieurs blessés graves. Accident survenu hier soir au quartier Panzi dans la commune d'Ibanda. Les témoins rapportent qu'un camion en provenance de Nyantende a perdu le contrôle et est entré dans le petit marché de Kamagema où plusieurs femmes marchandes étalent les marchandises le soir. Dans la foulée, 5 personnes sont mortes sur place et plusieurs autres blessés conduits à l'hôpital. C'est pour la énième fois que ce genre d'accident survienne en ce lieu de la ville de Bukavu, indique des sources sur place. Et au Kasai oriental, 3 personnes, dont un homme, une femme et son enfant d'environ 2 ans, sont mortes dans un accident de circulation survenu dans la nuit de vendredi à hier samedi sur la nationale numéro 1, axe Monedi-Tumbujimai, entre les villages Benampunga et Benandaya. On dénombre plusieurs blessés graves. Le chauffeur et les convoyeurs ont pris le large. Un des rescapés parle du mauvais état de la route, tandis que les habitants de ces deux villages venus secourir les rescapés lient cet accident à la surcharge. Nous restons au Kasaï oriental pour signaler le lancement mercredi par le gouverneur de province des travaux champêtres dans le territoire de Katanda à plus ou moins 60 km de Mbujimayi. Ces espaces seront exploités par les militaires de la 21e région militaire dans le but de rétablir la paix dans ce territoire. Des précisions avec Esther Ndalafina.
L'autorité provinciale a lancé les travaux champêtres dans les secteurs de Balou-Balou-Bilanger. Patrick Mathias Kabeya a indiqué que l'attribution des différents terrains aux militaires a un double objectif. Le premier objectif est celui de sécuriser le territoire de Katanda qui est en proie au conflit foncier interminable caractérisé par des affrontements et des tueries de personnes par les habitants des groupements de Benakapuya, Benamwembia et Benashimba. L'autorité provinciale souhaite qu'à travers ce projet, que les habitants de Katanda cohabitent et que ces travaux champêtres soient une source de revenus pour ceux qui vont faire le sarclage dans ces champs. Le deuxième objectif est celui de promouvoir l'agriculture dans ces territoires connus comme anciens greniers agricoles. Les efforts du gouvernement provincial de restaurer la paix ne sont pas appréciés par les habitants de ces territoires. Certains redoutent la présence permanente des militaires dans ce territoire. D'autres estiment que cette présence va favoriser les uns au détriment des autres. Signalons qu'après le labour des champs des militaires, la province prévoit d'élaborer des champs gratuitement pour les civils qui vont exprimer les besoins d'être assistés. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Ajout de 15 jours à la troisième ère opérationnelle dans le Maniema, la centrale électorale demande à la population de capitaliser ce moment pour se faire enrôler massivement et non attendre les derniers jours. Le secrétaire exécutif provincial de la CENI Maniema a lancé cet appel ce week-end lors d'une vaste sensibilisation des responsables des partis politiques sur le processus électoral. Émile Dimo Ketamboué est au micro de Florence Kizalunga.
La rencontre de ce jour s'inscrit dans le cadre d'une vaste campagne de sensibilisation à l'intention de partis politiques autour de l'opération de révision du fichier électoral. Comme vous le savez, nous avons été appuyés par AIFES. L'objectif majeur, c'était la sensibilisation. Et comme vous le savez, nous sommes dans la période de révision du fichier électoral. Il était question que nous puissions aborder des modules ayant trait à cette opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, mais aussi préparer les esprits de la population de notre province pour la prise en charge de cette opération et les autres opérations qui vont suivre. Bon, il y a eu prorogation de 15 jours. C'est pour permettre aux derniers requérants de pouvoir détenir la carte d'électeur. Donc nous sommes là en train de travailler d'arrache-pied au regard de 15 jours nous accordés pour que nous puissions récupérer les derniers requérants. Bon, vous savez, nous, Congolais, on agit toujours au dernier moment, mais nous disons que c'est le moment d'affluer les centres d'inscription pour que celui qui n'a pas encore eu sa carte puisse l'avoir.
Actualité internationale.
Le dépouillement est en cours au Nigeria après que des millions de personnes se sont rendues aux urnes hier pour élire les nouveaux gouverneurs des États. Les élections dans 28 des 36 États du Nigeria se déroulent dans un contexte de tensions accrues à la suite du scrutin présidentiel contesté du mois dernier. Les partis d'opposition continuent de rejeter la victoire du président élu Bola Tinubu du parti au pouvoir. Sachez que le vote des gouverneurs a été reporté dans quelques endroits, notamment dans la ville de Lagos, par crainte d'attaques contre les agents électoraux. Des actes de violence et d'intimidation des électeurs ont été signalés dans certaines villes du pays. Les résultats définitifs sont attendus pour demain lundi.
L'invité.
Comme annoncé ce midi, nous recevons le commissaire supérieur principal flamand Bali Wangoy. Il est le coordonnateur national adjoint du Centre congolais de lutte anti-mine en mission officielle à Beni depuis le mardi 14 mars. Il nous parle de sa mission qui consiste à faire un état des lieux de la lutte anti-mine dans la région. Le commissaire flamand Bali Wangoy s'entretient avec André Kitenge.
Commissaire supérieur principal Baliwa Ngoy Flama, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous vous trouvez à Beni. Peut-on savoir l'objet de votre mission?
Merci beaucoup. Je me retrouve à Beni pour une mission de service. D'autant plus que depuis le mois de février, il a plu à son excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, maître Asselo, de signer un arrêté procédant à la nomination d'une nouvelle équipe à la tête du Centre congolais de lutte anti-mine. Et à partir de là, nous avons la légalité. Nous avons la légitimité, mais c'est le problème de l'opportunité. C'est-à-dire qu'il a fallu maintenant qu'on puisse nous larguer sur le terrain afin de procéder à faire un état de lieu. D'autant plus que vous savez que la sécurité des personnes et des biens, de par sa contribution, de par son impact, contribue beaucoup au développement socio-économique de la population. Alors il a fallu qu'on puisse venir au sud Kivu, à Ituri, au nord Kivu, pour faire l'état des lieux de cette situation qui guette la population. La République démocratique du Congo a sa responsabilité de protéger les personnes et de bien. Il est connu de tous que depuis une trentaine d'années, la RDC, notre pays, a connu des turbulences, des conflits armés. Et derrière ces conflits armés, il y a eu justement des mines antipersonnelles qui ont été posées par-ci, par-là. Et il y a eu des victimes. Vous savez très bien, surtout au lendemain de l'arrivée des éléments combattants du Rwanda qui avaient traversé la frontière jusqu'à la République démocratique du Congo. Il y a eu une succession de guerres. Et toutes ces parties en conflit ont eu à utiliser des engins lourd, et si bien que certains engins n'ont pas eu d'écho favorable et d'autres sont restés inexploités, et ça crée une insécurité auprès de la population. Il y a des victimes. À Beni, là où nous sommes, et d'ailleurs j'en profite pour présenter des condoléances. La dernière situation qu'on a vécue à Kassindi, c'est déplorable. Alors, il a fallu qu'on puisse faire l'état des lieux, déterminer la cartographie pour permettre au gouvernement de la République à dépolluer toute cette surface afin de permettre à la population de s'installer là où il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de danger.
Vous venez d'arriver à Beni au moment où la ville et ses environs font l'objet de plusieurs attaques à la bombe. Qu'est-ce que la population peut attendre de vous?
Bon, d'abord un message de soulagement. Ma présence ici traduit les soucis du gouvernement congolais. Nous savons que Beni, dans son entièreté, traverse des périodes de turbulences en termes de bombes ou de mines antipersonnelles. Il faut maintenant qu'on puisse ensemble, avec tous les acteurs impliqués dans ces combats, de définir les règles du jeu, ou mieux de mettre sur pied une cartographie pour déterminer là où nous devons dépolluer. Et donc la population doit s'approprier cette mission. Il y aura toute une série d'activités ici avec tous les acteurs, les faiseurs d'opinion, les étudiants, les scientifiques, les chercheurs, les femmes commerçantes, les membres de la société civile, les autorités politico-militaires et vous, la presse, afin de mettre sous pied un mécanisme pour nous permettre à déterminer les zones polluées et les évacuer avec l'assistance du gouvernement de la République.
Lutter contre les engins explosifs improvisés, les bombes artisanales, nécessite également des moyens. Vous en avez?
La République n'a jamais été faible aux pauvres. C'est une structure du gouvernement par le biais du ministère de l'Intérieur. Et donc, notre tutelle, c'est le ministère de l'Intérieur. Et les moyens sont là. Et nous pensons que l'actuel moment ici, c'est juste pour chercher à donner une réponse à toutes ces situations. Les moyens, il y en a. Les compétences, il y en a. Nous avons un personnel qualifié pour cette fin, au sein même du CCLA.
Quel message lancez-vous à la population?
D'abord, la population doit collaborer avec toutes les autorités locales afin de dénicher, de pointer là où il y a des doutes. Parce que nous avons un mécanisme de la sensibilisation au risque. Tous les acteurs impliqués, les autorités locales doivent être saisies, informées à temps réel lorsque la population suspecte un danger quelconque. Et il y a un mécanisme pour ça. C'est ce que moi je dis, que nous avons un personnel qualifié, nous avons d'ailleurs des partenaires aussi internationaux, nous avons des partenaires nationaux qui, ensemble avec la population, nous devons juguler les efforts afin de dénicher, de dénoncer tout danger suspect ou tout outil qu'on trouve suspect, pour que les spécialistes viennent vérifier toute la situation et permettre à la population de bien vivre dans une zone non polluée.
Commissaire supérieur principal Bali Wangoy Flama, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier.
Le coordonnateur national adjoint du Centre congolais de lutte anti-mine répondait aux questions de André Kitenge. C'est la fin de ce journal, supervisé et coordonné par Alain Rungmushinj et Piro Elamenji, à la mise en onde Jean-Noël Mokondo. Merci d'avoir été des nôtres.